Guinée orientale. J'ai réfuté totalement cette histoire.
Moi, c'est Céline de Lukumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux activités de l'écriture, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de nous joindre à nous dans cet échange citoyen. Le gouvernement congolais a demandé aux différentes compagnies des téléphonies cellulaires installées en RDC de procéder à l'identification de leurs abonnés. Selon un communiqué conjoint du ministre de l'Intérieur et celui des Postes et Télécommunications, tous les utilisateurs devraient se faire identifier auprès de leurs réseaux respectifs pour leur propre sécurité et pour des raisons de maintien de l'ordre public. Cette mesure est saluée par l'Association congolaise pour l'accès à la justice qui, cependant, s'est dit préoccupée par ce qui peut advenir, notamment le non-respect des secrets des correspondances émises en pénétrant l'intimité communicationnelle des abonnés. Certains observateurs estiment que c'est une opération normale qui rentre dans les activités des routines de ces compagnies de communication. Une autre opinion redoute effectivement la violation du droit des citoyens à la vie privée comme le craint la cage. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-6315 et 081-890-4969 pour intervenir en direct. Mimi Kindoa sur la mise en onde de ces magazines coordonnées réalisées par Gir Lungembo et Julie Feza Bongonda qui en assure également le standard. Pierrot et la Mégie vous le présente sous la supervision de Pélé qui paie le monde aux fidèles éditeurs. Bienvenue à tous.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les usagers de téléphonie cellulaire sont dans l'obligation de procéder à l'identification. Cette identification a été demandée par le gouvernement congolais aux différentes compagnies de téléphonie cellulaire. Dans un communiqué conjointement signé par la vice-primature de l'intérieur, des postes de téléphone et télécommunications, tous les utilisateurs devraient se faire identifier auprès de leurs réseaux respectifs pour leur propre sécurité et pour des raisons de maintien de l'ordre public. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, qui salue cette mesure, mais s'est dit aussi préoccupée par notamment ce qui peut advenir pour elle, le non-respect du secret des correspondances. Mais plusieurs observateurs estiment que l'opération d'identification des abonnés, c'est une opération normale qui rentre dans les activités des routines et des compagnies de communication. Mais une autre redoute aussi qu'il y ait des cas, des violations des droits des citoyens à la vie privée comme l'écran l'ONG. Quel est votre point de vue par rapport à ces deux prises de position? Nous rappelons quand même que l'article 31 de la Constitution dit ceci: toute personne a droit au respect de sa vie privée, au secret de la correspondance et la télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ses droits qui est dans les cas prévus par la loi, mais aussi l'identification des abonnés, c'est une opération des routines obligatoires, que ce soit en RDC ou bien ailleurs dans les pays. Mais tout à l'heure, nous allons recevoir dans ces studios Maître Ndoukouma Adjaï Kodjo, directeur des cabinets adjoints à la vice-primature en charge des postes, téléphones et nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui pourra bien échanger avec nous autour de cette mesure, les modalités, les forces et les faiblesses, les garde-fous, tout cela va être abordé avec notre invité. En attendant, vous êtes nombreux à vous être inscrits sur le standard des paroles aux auditeurs. Félicien, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Alors, bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi et bonjour aussi à l'invité.
Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour éviter peut-être des interprétations? Comme je le disais tout à l'heure, une opinion estime que ce n'est qu'une opération normale de compagnies de téléphonie cellulaire d'identifier leurs abonnés, mais une autre opinion estime que l'identification peut apporter d'autres façons d'atteindre, par exemple, à la liberté de communication des uns et des autres. Alors, pour vous, quels sont les garde-fous, les mécanismes qui peuvent accompagner ces genres d'opérations pour éviter des suspicions et des méfiances?
Oui, merci beaucoup pour la parole que vous me donnez. Mais moi, je dis que c'est vrai que c'est une opération normale qui rentre dans les activités des routines les compagnies de communication. Parce que même quand on voyage à l'excès, on va dans des pays étrangers, surtout des pays des vieilles démocraties, on n'a pas cette facilité-là d'attraper une SIM pour votre téléphone et communiquer facilement avec les pays d'origine. C'est toujours beaucoup de formalités qu'il faut remplir pour avoir une SIM. Mais chez nous, ça se vend au coin de la rue et tout le monde peut l'avoir facilement. Ça n'assure pas la sécurité et l'ordre public, c'est vrai. Mais la difficulté que nous avons, c'est que ailleurs, c'est vraiment le respect des droits humains et tous les droits sont respectés. Mais ici chez nous, c'est le problème de l'article 31 de la Constitution qui pose problème parce que chez nous, on ne respecte aucune loi. La démocratie est titubante, on ne sait pas si on est en démocratie, si on n'est pas en démocratie. Et aujourd'hui, pour le même article, on dit non, on doit le respecter. Demain, pour un autre article de la même constitution, on ne respecte pas. C'est ça qui est difficile. Et si vraiment ceux qui prennent des dispositions pour que vraiment la vie, comment je vais dire, l'intimité de la vie de chacun soit respectée, peuvent garantir à chacun qu'on ne sera pas atteint à son intimité, et là ça peut rassurer tout le monde, mais malheureusement, nous ne sommes pas encore arrivés là, nous sommes encore en retard, c'est ça la difficulté. Quelles sont les garanties qu'ils vont nous donner pour dire qu'effectivement, on va respecter l'intimité de la vie de chacun et qu'on ne va pas être là en train de voir. Parce que chez nous, ce qui nous intéresse plus, est-ce que il y a des grèves où les gens vont sortir dans la rue et parce qu'ils vont s'opposer à ceci, parce qu'ils vont manifester et ils vont se communiquer par les textos, par ceci, cela. C'est ça qui les intéresse plus, pas l'essentiel. Or, l'essentiel, c'est que l'ordre soit établi. Manifester, c'est le droit de chacun. Même si les gens se communiquent, il y a marche, on doit se rencontrer, on doit tout ça. Et ils n'ont qu'à assurer l'ordre public et n'ont pas empêché les gens de marcher. Malheureusement, il faut rencontrer. C'est ça la difficulté.
Merci beaucoup, Félicien. Vous estimez que l'opération, c'est une opération de routine qui rentre, comme le disions tout à l'heure, dans les cadres des activités de compagnie des téléphonies cellulaires. Vous avez donné l'exemple de ce qui se passe ailleurs. C'est pas facile de pouvoir s'acheter une SIM comme on voit ici chez nous, dans tous les coins de rue. On peut acheter une SIM à 100 francs en dessous d'un arbre. N'importe où, on peut l'acheter. Ailleurs, ce n'est pas comme ça. Mais pour vous aussi, c'est le fait, c'est il faut identifier les gens pour leur sécurité. Mais d'un côté, il faut aussi des garanties que ces gens qui sont identifiés n'aient pas peur, n'aient pas des méfiances que demain, que leur vie privée ne soit pas respectée. Merci beaucoup, Félicien. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Bonjour et bienvenue. Maître Sonville, bonjour et bienvenue. Maître Sonville, on a des petits soucis avec votre ligne. S'il y a moyen de pouvoir que la réalisation pourra vous recontacter sur une autre ligne, parce que là, c'est à peine qu'on est en train de vous suivre. Hein. Alors, on pourra voir avec la réalisation si c'est possible de vous relancer sur une autre ligne. En attendant, nous allons à Bounia. Sylvain, merci de nous avoir rejoint dans cet échange. Bonjour Sylvain et bienvenue.
Merci Pierrot. Bonjour à tout le monde. Bonjour à l'invité. Comme je veux dire, sur mon message Facebook posté sur votre adresse Facebook, ça veut dire que cette histoire de la réglementation de la communication a en RDC n'est pas une nouveauté. Donc, dans tous les États qui se respectent, à un moment donné, il faut réglementer la communication puisque la communication va de la sécurité de l'État. Malheureusement, ce que vous constatez chez nous, c'est quoi? L'auditeur qui a parlé avant moi, il a rappelé l'article 31 de la Constitution d'un pays qui garantit les secrets de la communication à tout Congolais, n'est-ce pas? Ça, c'est de un. Mais deux, ça donne aussi les devoirs à l'État de réguler cette même communication. Ça veut dire quoi? Garantir la libre communication à chaque Congolais. Maintenant, le problème n'est pas là. Le problème est au niveau de la coutume. Oui?
Allez-y, oui. On vous écoute, Sylvain.
Oui, donc le problème est au niveau de la coutume communicationnelle congolaise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire comment nous réglementons la communication chez nous au Congo. Moi, je vais partir, peut-être après l'indépendance. Quel a été le mode de communication et comment on l'avait géré. Je pense que ceux qui ont fait l'histoire de ce pays savent comment on a géré la communication à l'époque. Nous regardons les documentaires, nous voyons dans quelle mesure les gens ont été connectés à travers le pays pour réclamer l'indépendance. Je ne vais pas citer les radios, on installait tout au long des marchés, tout au long d'agglomérations où les gens pouvaient être informés. Je ne vais pas rappeler tout ça. Mais alors, les choses ont changé. Au 21e siècle, nous avons l'Internet, nous avons les téléphones portables, nous avons les téléphones fixes, et nous avons tout ça. Nous avons les SMS. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe malheureusement dans notre pays? Nous avons un problème dans notre pays. Les maisons même qui assurent la communication en RDC sont incapables de pouvoir assurer la sécurité institutionnelle. Ça veut dire quoi? Permettre aux autorités de l'État de contrôler la communication. Pourquoi je le dis aussi? Vous savez, monsieur le journaliste, notre pays a connu beaucoup d'états de guerre. Et ces guerres-là ont été portées par les infiltrations téléphoniques aussi. Les gens ont utilisé la nouvelle technologie de l'information pour faire de la guerre au Congo. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait jusqu'aujourd'hui. Là, je marche avec le gouvernement. Mais du côté où ça ne marche pas, c'est comme Akaj l'a dit. Ça veut dire que le pouvoir public, à un moment donné, s'arrange les doigts de violer l'article 31 subventionné, je l'ai dit. Et lorsque le pouvoir public viole cet article-là, on limite la capacité du peuple congolais à pouvoir se procurer du bien-être à travers la communication. Allez-y qu'on parle, monsieur le journaliste. Les 19, les 20, les 21, à qui me fait ça? Lors des différentes manifestations qui ont eu lieu à travers la loi, par rapport à la question de la loi électorale, on a fermé le service des SMS, on a boosté, n'est-ce pas, l'Internet, on a mis d'autres personnalités politiques sous écoute en violation de la Constitution, vous comprenez? On a même empêché aux autres concitoyens de communiquer. Mais tenez, la vie dans ce monde ne connaissait que par la communication. Aujourd'hui, je prends un exemple. Le gouvernement congolais qui bloque, elle est du BDA, de pouvoir communiquer avec son frère Tchad Goumachi. Lui, il a mangé. On les bloque pendant deux jours, et si le frère ne sait pas manger, le gouvernement ne sait pas voir ça. Moi, je crois que si nous arrivons à réglementer les choses en amont, ce qui veut dire quoi? Je veux dire que l'État congolais a le devoir d'opérer une gestion harmonieuse de toutes les compagnies de communication, ça veut dire mettre à disposition. Allô?
Oui, allez-y, Sylvain.
Mettre à la disposition de ces maisons de communication des moyens essentiels pour être en contact avec ses abonnés et aussi ces mêmes compagnies de télécommunication mettre des moyens essentiels à la disposition de l'État pour que l'État contrôle la communication. Ça, c'est de 1. De 2. Voyez le cas qui se passe dans les pays développés. On est à même de savoir qui a communiqué entre 8h et 9h. Puisque le ministère de l'Intérieur, je suppose bien, est informatisé. Et doit suivre quotidiennement toutes les communications pour que la sécurité de l'État ne soit pas effrayée. Mais lorsque c'est pour des intérêts politiques, et c'est là où je suis, monsieur le journaliste, puisque vous allez vous rendre compte que la coutume de la communication dans notre pays, c'est lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une déconfiture, de confiance entre les peuples, lorsqu'il y a une crise éthique entre une communauté, c'est à ce moment-là que l'État congolais se met debout pour commencer à trouver des choses. Là, je ne marche pas avec le gouvernement congolais. Et je pense que, à ce qui nous concerne, nous devons réglementer les choses en amont. Et que ça va venir de soi. Voilà mon point de vue par rapport à ce sujet-là.
Voilà, merci beaucoup Sylvain. Vous avez insisté sur les devoirs de l'État de pouvoir garantir la libre communication, la sécurisation de sa population. Vous l'avez dit, le contrôle de la communication, il va même de la sécurité de l'État, mais il y a aussi d'un côté la marge de manœuvre, d'erreur sur ce que nous disions tout à l'heure par rapport au respect de sa vie privée, au secret de la correspondance. Comment arriver à garantir tout cela? Vous l'avez dit, c'est l'État qui a cette responsabilité de pouvoir orienter et la population ainsi aussi qui encadrait les sociétés de télécommunications. Merci beaucoup. Notre invité est avec nous déjà dans ce studio, Maître Sonville. Vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Kabir. Bonjour aussi à votre invité.
Voilà, vous avez suivi la
monsieur Pierrot, moi, je dirais ceci. Je joins d'abord la cage par rapport à la confidentialité de la communication des correspondances. Moi, j'estime que, d'abord, pour les préalables qui ont été posés, pour la réidentification, on a d'abord les maisons de communication ont exigé les cartes d'identité, soit les cartes d'électeur. Voilà où se pose le problème. Or, tous ceux-là qui possèdent les appareils ne sont pas majeurs, puisque les cartes d'électeur ont été distribuées seulement à ceux-là qui étaient majeurs en 2011. Mais aujourd'hui, nous avons de nouveaux majeurs. C'est-à-dire que ceux-là sont butés à d'énormes difficultés pour se faire enregistrer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas eu même de moratoire. C'est juste quand le gouvernement a enjoint à ces maisons de communication pour procéder à l'identification, les maisons de communication ont eu à bloquer les cartes SIM. Et le moment était très mal indiqué. Vous savez que nous étions au mois de festivités de la fin du mois de l'année. Les Congolais, 80% des Congolais vivent de l'argent provenant de l'extérieur. Et il y a certaines personnes, ils ne décrochent jamais à un numéro qu'ils ne connaissent pas, une difficulté à laquelle était butée la population. Par rapport à la procédure, M. Pierrot, quand on bloque les SIM, c'est-à-dire que c'est comme si on est en train d'enfreindre à la liberté de communication. Or, la responsabilité est à partager et entre le gouvernement et les maisons de communication. Puisqu'il y a 3 ans que le même gouvernement a fait enjoint aux maisons de communication de faire enregistrer les numéros de tous leurs abonnés. Or, avec ceux-là qui ont remplacé leurs prédécesseurs, devait avoir la continuité de l'action menée par le gouvernement. Ça n'a pas été fait. Et du côté des maisons de communication, il y a une très grande négligence. Et maintenant, c'est la pauvre population qui a été préjugée par rapport à leur notification. Au-delà de ça, monsieur Pierrot, quand on requit une maison de communication par le parquet, on nous demande d'accès que la décision soit signée par le procureur général de la République. Ça, c'est enfreindre maintenant à la bonne marche de la justice. Un monsieur de Lubumbashi ne veut pas quitter ici pour aller à Kinshasa, pour arracher la signature du procureur général de la République pour que la maison de communication puisse livrer des informations. Bon, maintenant, lorsqu'on exige à tout Congolais de procéder à l'identification, ça j'estime que si c'est dans le cadre de la sécurisation de personnes, moi j'estime que c'est un prétexte, puisque vous savez, M. Pierrot, cette année, c'est une année de défi électoral. Moi, j'estime que tout cela est fait pour que les opposants soient mis à l'écoute, tous ceux qui s'opposent au pouvoir soient mis à l'écoute et être inquiétés par après. Si c'est dans ce sens-là, moi, je ne digère pas cette manière de voir les choses.
Mais là, pour vous,
si je peux encore rassurer M. Pierrot, le problème qui est là, c'est quoi? On a vu avec l'interprétation du 19-18 janvier, tous les numéros, toutes les cartes SIM des opposants ont été bloquées. Alors, moi, j'estime que c'est pour apprendre à la liberté de la population.
Mais pour vous, vous pensez-vous vraiment que, comme le disait tout à l'heure Félicien, qu'ailleurs, vous ne pouvez pas quand même accéder à une carte SIM en dessous d'un arbre, vous ne pouvez pas acheter quand même dans un coin de rue. Pensez-vous vraiment que le fait d'identifier les abonnés, tous les abonnés, tous ceux qui achètent des SIM au coin de rue qui ne sont pas connus, soit tout cela soit lié vraiment à la situation politique où il y a quand même ces besoins, comme on le disait tout à l'heure, que c'est une opération normale des routines d'une compagnie de pouvoir identifier ses abonnés?
C'est une opération normale, mais si par rapport à cette opération normale, il y a quelque chose qui se fait en sourdine ou pour empêcher, pour enfreindre à la liberté d'expression, à la liberté de communication, à la liberté de confidentialité, de correspondance, là je ne suis pas d'accord.
Voilà, merci beaucoup,
par rapport à la pensée de M. Félicien, moi je suis déjà européen de voyage en Afrique du Sud, il n'y a pas beaucoup d'obligations, il n'y a pas beaucoup de préalables pour avoir une carte SIM. J'ai acheté dans des shops, on ne m'a rien exigé. Et j'avais acheté cette carte SIM que je possède jusqu'à présent, quand je me rends en Afrique du Sud, c'est avec cette carte que je communique. Non, c'est une obligation, tout ça, moi j'estime que c'est faux.
Merci beaucoup, Maître Sonville. Vous estimez que c'est pas une obligation, mais là, ça n'est qu'il y a des appréhensions parce que vous dites que si c'est pour la sécurité des personnes, la sécurité des institutions, c'est bien, mais si on va aujourd'hui se retrouver dans la violation des libertés des uns et des autres, là, il y a un problème qui va se poser. Roger Tchaba, vous gardez la ligne, le temps que notre invité puisse intervenir aussi par rapport à cet échange. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons reçu dans ces studios Maître Ndoukouma Adjaï Kodjo, directeur des cabinets adjoints à la vice primature en charge des postes de téléphone, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Maître Ndoukouma, bonjour,
oui,
meilleurs vœux et bienvenue au studio de Radio Capi.
Merci.
Disons aussi que vous avez un master 2 en droit du cyberespace africain, doctorat en droit numérique, et vous êtes avocat, vous avez écrit aussi un livre qui traite du cyberdroit des télécommunications, internet et e-commerce. Ça veut dire que le domaine dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est votre domaine. Mais remontez un peu l'histoire pour permettre aux auditeurs de comprendre les motivations, les besoins pour lesquels le gouvernement veut que les abonnés soient identifiés.
Absolument. Je vais juste faire un parcours du régime juridique. C'est depuis 2002. Ça veut dire la loi cadre numéro 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en RDC qui a posé à l'article 6 le principe de la surveillance générale du secteur des télécommunications sous l'égide du ministère des PTT et en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et le ministère de la Défense. Donc, c'est depuis 2002 que ce principe de la surveillance générale et de la coopération des opérateurs de télécommunications existe. Maintenant, il y a un deuxième article, l'article 46 de cette même loi cadre de 2002, qui dit que pour des motifs, des raisons d'État, pour des motifs de sécurité, il peut être fait des restrictions à l'accès aux services des télécommunications. Ça, c'est en 2002. Alors, maintenant, en ce qui concerne les mesures d'identification des abonnés, elles remontent au 8 mars 2008. Il y a eu un arrêté qui a été pris à l'époque par le ministre, conjointement par le ministre Kaloumé et le ministre des PTNSIC de l'époque, qui enjoignait les opérateurs de télécommunications et même les fournisseurs d'accès à Internet à pouvoir identifier leurs abonnés. Et en 2009, un autre arrêté a été pris pour, c'était le 21 décembre 2009, pour renforcer ces mesures. Et à part cela, le 19 mai 2015, il y a eu un autre arrêté interministériel qui est venu définir une procédure qui permet à ce qu'on ait des mesures graduelles, dans le sens où une personne qui n'est pas identifiée verrait dans un premier temps ses appels sortants restreints. Dans un deuxième temps, sur un certain nombre de temps s'il ne se régularise pas, il verrait ses appels entrants également restreints. Il n'aura accès qu'au service de client de son opérateur. Et en fin de compte, il pourra être désactivé. Parce que je reviens également à un régime, et ça pourrait surprendre tout le monde, il existe une instruction administrative de la Banque Centrale du Congo. C'est l'instruction 06 portant réglementation de l'activité des messageries qui date du 13 juillet 2006. Et à son article 15, il est dit que dans les directives administratives, pour ceux qui font la monnaie électronique et les opérations le font, ils ont l'obligation de prélever prélever et de photocopier les identités de leurs clients donneurs d'ordre ou bénéficiaires de transfert à leur guichet. Donc, voici ainsi le régime. Donc, il n'y a pas une police politique, mais c'est une régulation normale du secteur des télécommunications. Maintenant, quand on parle des questions d'opportunité, déjà avec l'historique qui est donné, on se rend compte que l'obligation, elle est impérative depuis plusieurs années, mais simplement, il a fallu pouvoir le faire à un moment donné. La question de facilité pour que les nouveaux majeurs puissent s'identifier parce qu'ils n'ont pas de carte de lecteur, a été déjà rencontré dans l'arrêté du 19 mai 2015 qui a été signé par 6 ministres. Et il est dit qu'une personne exerçant l'autorité parentale pour le mineur peut signer en ces lieux et places. Et à part cela également, il y a la question de la réquisition du PGR. Le PGR, c'est quand même un gardien de la loi et des libertés publiques, donc il agit également sur base des prérogatives qui lui sont reconnues dans la loi cadre des télécommunications. On en reconnaît, bien sûr, la loi des procédures peut reconnaître la plénitude de l'action publique aux procureurs généraux au niveau des provinces, mais pour cette question-là, c'est soit celui qui a les services de sécurité en tête, ou celui qui a le parquet en tête qui peut agir. Alors, on peut discuter de la portée d'un certain nombre de mesures, mais il en est ainsi. Même lorsqu'on se réfère au droit comparé. Moi, j'étais à Genève, le siège de l'Union internationale de télécommunications. Quand vous devez acheter une carte SIM, vous l'achetez d'abord dans des magasins agréés, et vous n'avez pas tout de suite accès à la communication, parce que on doit envoyer par un moyen rapide SMS vos coordonnées, vos passeports, vos numéros de passeport à un service, ça doit être le service de police, et ensuite vous voyez un SMS sur votre téléphone qui vous dit vous pouvez appeler. Donc on ne peut pas reprocher à l'État ses efforts de pouvoir reconquérir la souveraineté numérique, parce que pendant un temps il y a eu des gens qui ont utilisé les téléphones pour des moyens de cybercriminalité.
Oui.
Il ne faut pas seulement voir l'aspect consommateur, mais il faut également voir l'aspect évasion fiscale. On a eu un phénomène ici dans le pays qu'on appelle le SIMbox. Ça veut dire des gens qui mettent dans un dispositif électronique, ils alignent une dizaine ou une centaine de SIM non identifiées et ils recyclent le trafic venant de l'extérieur qui doit pouvoir être taxé, mais ils le recyclent en tarif local et qui ne reçoit aucune taxe. Je peux vous donner les chiffres qu'avec ce phénomène, de 33 millions de minutes qui avaient été enregistrées il y a 6 mois, on est tombé, donc sur le trafic international entrant, on est tombé à 20 millions de minutes. À noter que sur chaque minute d'appel international entrant, le pays prend 8 cents. Donc vous voyez que vous prenez la différence de 13 millions fois 8 cents, c'est une perte énorme. Et donc la seule façon de lutter également contre ce phénomène de cybercriminalité, c'est celui-là. Il y a une autre façon également. Nous savons que dans les pays, au niveau des frontières de notre pays, il y a des mouvements de ADS Nalou, il y a des mouvements des
anti-balaka,
des SGR et tout ça. Donc, si ces personnes, si on ne peut pas monitorer le trafic, on ne pourra pas, à un moment donné, faire des investigations anticriminelles. Parce que, je n'irai pas plus loin, nous sommes souvent dans des task forces beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus discrets pour ne pas sortir un certain nombre de stratégies. Malheureusement, on peut le dire, pour les consommateurs, il y a eu un communiqué qui est passé, parce qu'on a parlé qu'il n'y avait pas de préavis, quoique la mesure date de 2008, tout le monde devrait s'y conformer, il y a eu un préavis qui est passé en boucle le 26 décembre, le 27 décembre, le 28 décembre, le 29 décembre sur la RTNC. Et ça passait vraiment à tout moment, de sorte que chacun puisse être avisé.
Merci. Mais voilà, vous avez posé les bases juridiques, c'est vraiment pas une question très très discutable parce que les textes depuis les lois depuis 2002. Mais ne trouvez-vous pas là qu'il y a un fossé entre ces mécanismes qui sont juridiques et la compréhension de la population depuis 2002 des lois qui existent, forcément que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il n'y a pas assez de messages de sensibilisation pour que les gens comprennent l'autre portée de toutes ces explications. Mais qu'est-ce qui doit être fait à ces niveaux-là pour qu'on évite de tomber dans les suspicions, dans les appréhensions, bien sûr, quand les mesures se prennent dans cette période, vous avez suivi mettre son dit, mais voilà, parce que nous sommes dans une année cruciale, une année électorale, tout ça c'est fait pour pouvoir surveiller les gens. Comment alors au niveau du gouvernement, ces mesures doivent être apportées à la population d'une manière à ce qu'elles soient comprises sans qu'on tombe dans les suspicions et surtout dans les incompréhensions par rapport à tous les faits politiques et comme on l'a vu avec l'historique donné tout à l'heure par les auditeurs.
En fait, c'est naturel pour l'État de pouvoir faire la surveillance générale de tout secteur. Vous avez tout ce qui est activité en portant un élément d'extranéité. Ça veut dire la douane, par exemple. Ça veut dire la migration aux frontières. Ça veut dire, par exemple, le déplacement des groupes font l'objet d'une surveillance, parce que c'est une surveillance physique. Mais là, la loi cadre sur les télécommunications pose les principes de non-violation de secret de correspondance, mais pose les modalités qui sont tout à fait légales et qui sont de plus en plus recourues en France avec le problème de Daesh, qui sont de plus en plus recourues aux États-Unis, le principe de la levée du secret des correspondances, soit pour la manifestation de la vérité judiciaire, soit pour des motifs de sécurité. Et les motifs de sécurité sont des raisons d'État qui ne sont même pas contrôlables par une juridiction quelconque. Ça, c'est du droit. Maintenant, pour votre question, on a assisté dans ce pays à un libéralisme sauvage qui a fait qu'on a vendu des cartes SIM à la sauvette et l'intérêt n'était pas sécuritaire à l'époque. L'intérêt, en l'an 2000, donc 1998-2000, l'intérêt c'était d'arriver à l'inclusion numérique. Maintenant, l'intérêt c'est d'arriver à l'inclusion financière également. Donc le but c'était d'assurer un taux de pénétration du pays trop élevé. En 2000, nous avions, on a passé le cap de 2000 ici au Congo avec 0,01% de taux de pénétration, ça veut dire un téléphone pour 1000 personnes. Et donc, à l'époque, c'était ça. Les motifs étaient économiques. Mais après, l'usage du téléphone n'est plus simplement la voix, n'est plus simplement le SMS, mais aujourd'hui, avec le téléphone, on fait de l'Internet. Avec le téléphone, on fait des transactions financières. Et donc, il y a les questions qui se posent de blanchiment des capitaux, parce que si une personne n'est pas identifiée et qu'il transfère de l'argent à tout va, par les médias informatiques et puis il disparaît, il y a un problème de blanchiment des capitaux et il y a un problème de financement qui peut arriver du terrorisme. Et ça, c'est dans les règles prudentielles même de la Banque centrale du Congo que je viens d'évoquer. Donc maintenant, l'État, je suis d'accord sur plusieurs arguments tout à fait logiques de Maître Sandy, mais maintenant, l'État est en train de rattraper le volet sécuritaire, le volet prudentiel. C'est ça le terme, le volet prudentiel de l'usage de télécommunications, à part le volet économique et accès des citoyens aux télécoms.
On va revenir à vous, le temps d'écouter Roger Chabat qui est ici à Kinshasa, professeur Ignace Ayeta Kolezi et Victor Nzuzi dans les Congo central, 081-890-6315. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Capi.
Roger Chabat, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans cet échange. Roger Chabat, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour Pierrot et bonjour à l'invité.
Donc vous êtes bonjour. Roger, on a des petits soucis pour vous suivre le temps que vous puissiez arranger. Oui, allez-y.
Je pense que cette initiative, elle est très bonne pour la sécurité de notre pays ou du peuple congolais. Ceux qui s'opposent à ce genre de choses, à cette mesure, ce sont ces gens-là qui cherchent à ce qu'il n'y ait pas la sécurité dans notre pays. Je veux vous dire une chose, pas seulement la sécurité, mais cela nous aide aussi à lutter contre l'escroquerie. Et surtout, chez nous ici au Congo, l'escroquerie est à haut niveau et ça se passe toujours par la voie de communication. Moi, personnellement, je suis témoin et j'ai commencé à sensibiliser tous les membres de ma famille, du quartier, les amis, à aller s'identifier dans tous les shops de les réseaux qu'ils utilisent. Pourquoi? C'est pour aider notre Congo à aller de l'avant, à être en sécurité, à éviter tout ce genre de se coopérer. Et il y a quelque chose qui se passe. Le problème en est que nous acceptons cela même.
Dommage, on a perdu Roger Chabat quand il évoquait tout à l'heure la sécurité et l'escroquerie. Beaucoup de gens aujourd'hui sont victimes, on voit beaucoup de personnes viennent réclamer ici à la MONUSCO que nous avons été contactés par des personnes pour être embauchées, on a donné de l'argent, on a vu une jeune fille pleurer ici, on l'a escroquée par messagerie ici, bien sûr téléphonique, on lui a demandé d'envoyer par téléphonie cellulaire autant d'argent. Nous avons été aussi victimes des gens qui nous ont contactés de Bukavu pour acheter des plantes médicinales, tout ça, ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui. Alors, Roger estime qu'il faut vraiment encourager les gens à se faire identifier. Merci beaucoup. Professeur Ignace, vous êtes à Kolezi. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci pour la parole. Bonjour à l'invité. J'ai une analyse toute particulière. D'abord, je souhaite qu'on puisse dépassionner le débat et surtout ne pas toujours voir les implications politique directement. Il faut reconnaître que notre pays était parmi les pays qui, en fait, était vanté comme étant l'espace où la communication était facile et moins coûteuse. Mais moi, je pense qu'au lieu de dire cela, il fallait sincèrement, et aujourd'hui, comme je pense, dire que la communication n'était pas facile, mais elle était plus organisée. Donc, il y avait un certain libertinage. Moi, j'ai félicite le gouvernement, même si cela se fait en retard, ou disons que les mesures ayant déjà été prises avant, il y a eu une certaine négligence par rapport au suivi de ce qui devait être fait. C'est comme l'invité l'a dit, et les mesures avaient été prises avant, mais il y a eu une espèce de léthargie ou une négligence, comme si les maisons de communication pouvaient y aller seules, sans un certain suivi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faudrait qu'on puisse procéder à l'identification des différents usagers, parce que utiliser le téléphone a une implication non seulement judiciaire, mais il y a aussi des implications économiques. Je vais dire en dernier lieu ici qu'il y a eu des pertes énormes dans l'assiette de l'État par rapport à fixe TV, à cette anarchie. Donc il faut encourager cette remise ou reprise du suivi de ce qui devait être fait. Mais ma préoccupation est celle-ci. Tout à l'heure, un interlocuteur l'a dit. On s'enregistre. Mais regardez, moi, je suis passé personnellement à certaines maisons de communication. Comment cet enregistrement est en train de faire, l'identification est en train de se faire? Les gens viennent remplir leur identité sur des fiches qui sont placées sur certaines bâches. Hein. Parfois, il n'y a personne pour suivre exactement qu'est-ce que les personnes sont en train de décliner comme identité ou qu'est-ce qu'ils écrivent là-bas. Je vais dire que c'est sous parfois des fausses identités pour ceux qui sont mal intentionnés, qui se présentent là-bas. Et alors, vous allez remarquer que cela, pour des raisons d'enquête, n'aura aucun effet. Quelqu'un peut ramasser une fiche, il vient pour s'inscrire, il présente autre identité, et même s'il abusait de l'usage de sa fiche, il ne sera jamais découvert, parce qu'il va se présenter sous des fausses identités, où il reprend, par exemple, pratiquement les identités de son prédécesseur par rapport aux adeptes, et autre chose, et les chances de non. Donc, il n'y a pas moyen de découvrir. J'aurais voulu que l'État ait une attention particulière pour savoir exactement comment cette identification est en train de se faire. Voilà à peu près comment moi je vois les choses. Hein.
Merci beaucoup, parole. Professeur Elias. Vous estimez que la mesure, il faut l'encourager, il faut quand même qu'il y ait de l'ordre dans les secteurs. Mais le problème aujourd'hui, c'est les mécanismes, même dans l'identification. Il n'y a pas vraiment de garantie qu'on soit sûr que les personnes qui sont identifiées sont celles qui vont être transmises dans la base des données. Il faut dire aujourd'hui qu'on ait des mécanismes, des suivis dans l'identification. Merci beaucoup. Victor Onzouzi, merci de nous avoir appelé du Congo central. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Je pense qu'il y a un très sérieux problème dans ce pays, c'est la confiance. La population n'a plus confiance à l'État congolais. C'est là le problème. Il faut qu'on en parle sérieusement. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que la population a perdu confiance à notre État? Souvent, moi je pense que la mesure, c'est une mesure tout à fait normale. Nous avons eu l'occasion de voyager un peu partout dans le monde. En tout cas, vous ne pouvez pas avoir votre piste sans donner la photocopie de votre passeport.
Mm-hmm.
Ça, c'est clair. Mais ce qui se passe chez nous, c'est que, d'abord, on ne connaît pas combien de Congolais nous sommes. Ces Congolais habitent où? Donc, les amis, mes prédécesseurs l'ont déjà dit. Mais la réalité aussi, c'est que le gouvernement est en train carrément de nous distraire. Parce que au Nigeria, on a vu, il y a une entreprise, je crois, NTA, qui a triché au Nigeria. Et ils ont payé des millions de dollars. Mais chez nous, le technicien vient le dire, il est juriste. Les gens avec les SIM box sont en train de tricher. Donc, le trésor public est saigné. Mais combien de gens ont été sanctionnés s'il s'agit d'un problème de sécurité? Et le problème de sécurité dans notre pays, il faut sortir des injustices, des inégalités, de non-respect de loi par nos autorités. Tant que les autorités, elles sont là. Elles sont responsables. On a décidé depuis 2002, il est en train de dire. Mais depuis 2002, les gens n'ont pas travaillé. Les autorités n'ont pas joué leur rôle. Et pourquoi? Combien d'autorités ont été sanctionnées puisqu'ils n'ont pas fait de suivi? Combien d'entreprises ont été sanctionnées? Et la confiance vis-à-vis de l'État, je vous assure, on peut tout dire. Les Congolais n'ont plus confiance. Parce qu'il y a tellement de mensonges. Aujourd'hui, le gouvernement dit ceci, demain il dit autre chose, il viole la loi, il arrête les SMS, il arrête l'Internet. Qui doit encore croire au gouvernement?
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Victor Nzouzi. Le problème aujourd'hui pour vous, d'abord, c'est la conscience. Hein, quand peut-être des procédures, c'est la question que nous allons poser directement à notre invité, parce qu'il y a cette question de la liberté des secrets, des communications, de la liberté de la vie privée. Alors, comment, dans toutes ces procédures, que ce soit pour les mesures économiques, sécuritaires, organisationnelles, arriver aujourd'hui à garantir les libertés des uns et des autres dans la communication pour éviter, effectivement, cette crise des consciences que Victor Nzouzi évoque tout à l'heure, qui fait que les gens vont finir par dire, mais écoutez, on ne va pas se faire identifier parce que derrière, on vise plus les intérêts de nous museler, d'attaquer à notre liberté. Alors, où se trouvent les devoirs des uns, les droits des autres, pour qu'il y ait quand même cette conscience et que la population adhère à cette opération facilement, sans beaucoup de suspicions, maître Ndoukouma?
Bon, il faut d'abord remonter à la Constitution, parce qu'on parle des libertés. Les libertés qui sont garanties et qui peuvent être mises en lien avec les télécommunications, c'est les libertés d'expression et les libertés de communication.
Oui.
Mais la liberté qu'on appelle maintenant en Europe le habeas data, ça veut dire le droit pour chacun de ne plus être privé d'une connexion. Ce droit est encore un droit révolutionnaire, il n'est pas encore inscrit dans une constitution. Même en France, ça fait même partie d'un chapitre de thèse, la liberté d'accès ou de non-accès à un réseau de télécommunications n'est pas encore constitutionnellement garantie de manière expresse. Donc c'est nécessairement la liberté d'expression qui peut passer par les médias, et les télécoms sont les médias, ou la liberté de communication qui peut être une communication orale directe ou une communication par un réseau de télécommunications. Donc c'est de manière dérivée que cette liberté est reconnue et attachée aux télécommunications. Donc ça, c'est important à le dire. Maintenant, toute liberté, ça c'est la Constitution, s'exerce dans le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. Et l'ordre public, moi je suis juriste, l'ordre public est l'un des concepts les plus difficiles à pouvoir définir, parce qu'il tient lieu d'un ensemble de considérations à la fois juridiques, sociales et politiques. Cela dépend de l'idéal de droit. Cela dépend de la ligne politique de l'autorité en place qui est dans l'État congolais. Et donc, c'est déjà une réponse qui est donnée pour dire votre liberté n'est pas, est par dérivé constitutionnellement garantie, mais la loi et la Constitution fixent cet exercice de liberté dans le cadre qui ne dépasse pas l'ordre public et les bonnes mœurs. Et donc, l'article 46 de la loi cadre sur les télécommunications de 2002 autorise légalement l'État à pouvoir restreindre en tout ou en partie, individuellement ou collectivement, l'accès aux services
publics de télécommunications. Et à quel niveau que l'État peut arriver à le faire?
Bon, ce sont des mesures en fait de cybersécurité ou des mesures d'investigation judiciaire, c'est les deux cas. Parce que quand on soupçonne une personne d'utiliser par exemple les téléphones à des fins qui sont contre legem, qui sont contraires à la loi, on peut décider de pouvoir suspendre. C'est même ce qui se passe avec la France, hein, la loi Hadopi. Ça veut dire lorsque vous téléchargez illégalement des contenus pédopornographiques sur votre téléphone, lorsque vous téléchargez illégalement des musiques en violation des droits de copyright des autres, on vous coupe l'accès à Internet. Ça, c'est comme ça. Donc, vous m'avez posé une question sur la liberté et sur son exercice. Maintenant, la question qui était en rapport avec la confiance et les procédures, ça pose effectivement, et ça c'est très important que les citoyens y pensent, ça pose un problème de la fiabilité des données recueillies dans le cadre de l'identification. Mais ce qu'il y a, c'est que lorsque une personne remplit de manière complaisante la fiche et elle se dit qu'on ne la retrouvera pas, il y a d'autres moyens de reconnaissance ou d'identification électronique. Parce que tout ce que nous faisons dans le domaine de la cybersécurité, dans la lutte contre la cybercriminalité, c'est un rapprochement entre les fichiers d'état civil, par exemple, ou les fichiers physiques, et des données de connexion. Ça veut dire que vous pouvez dire que vous habitez à Ngaba, parce que vous avez menti, mais que l'antenne qui vous prend en charge en matière de géolocalisation vous situe vos premiers appels de 5 heures du matin et vos derniers appels de minuit sur une antenne qui est basée à la Gombe. donc on saura tout de suite que ce que vous avez rempli sur le plan papier ne correspond pas avec l'électronique. Et quand vous remplissez ce fichier, la fiche qui est mise à la disposition au niveau des opérateurs télécoms, on vous dit que toute fausse déclaration se rapporte au code pénal en matière de faux et usage de faux.
Mais rapidement, il y a un auditeur qui nous a écrit pour dire mais les sociétés de télécommunications continuent toujours à vendre les SIM de la même manière, en dessous des arbres, dans les coins de rue. Ça aussi, c'est un problème après la première identification, mais les SIM ont été toujours vendus de la même manière.
Oui, maintenant, là je reviens à la directive en Europe 2031C sur le commerce électronique, dont le principe sont également reproduits dans notre loi, même si on n'est pas de l'Union européenne, mais c'est le droit qu'on parlait. Cette directive dit que les opérateurs de télécommunications ont l'obligation de coopérer. Ils ne doivent pas se comporter de manière à saper l'efficacité des mesures que l'État prend. Par exemple, ils devraient pouvoir interdire la vente à la sauvette des cartes, parce que moi je suis déconnecté parce que je suis non identifié, je vais dans la rue, je vais prendre une SIM à 100 francs et je continue à opérer. Donc ça c'est leur obligation. Et même dans les prochains jours, des mesures complémentaires seront prises au niveau des opérateurs, pas à l'encontre des opérateurs, des super dealers et des dealers pour que la chaîne de distribution des SIM cartes soit assainie. Parce que la loi leur dit, l'arrêté du 19 mai 2015 interdit la vente des SIM préactivées dans la rue.
Ernest, vous êtes à Matadi. Bonjour et bienvenue. Vous avez aussi une minute, Ernest, pour placer un mot par rapport à cet échange.
Merci beaucoup, JR, pour la parole. Bon, dans une minute, je dirais que la méfiance que nous avons, c'est de constater que ce genre de dispositions d'enregistrement, des coupures de SMS, d'Internet, ça arrive pendant les périodes stratégiques. En 2000, pendant qu'il y avait l'élection, on a vécu la même situation. Et maintenant, comme c'est une année stratégique, on commence encore à revenir sur ce. C'est ça la source de méfiance. Mais sinon, l'identification est nécessaire pour des besoins économiques, pour que le gouvernement sache combien d'abonnés ils sont et combien les entreprises de communication payent comme taxe à l'État congolais. Donc, c'est très bien, c'est une bonne chose, mais on doit savoir choisir les moments. Il faut que cela arrive sans des moments où les esprits sont surchauffés pour une raison ou une autre. Voilà rapidement ce que je pense.
Merci beaucoup, Ernest. Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, Pierrot et la Mengi. Bonjour à messieurs.
Oui, maître, on vous écoute. Oui.
Oui, Pierrot, je pense que l'idée sur papier est bonne, mais la manière est mauvaise. En droit, on dit « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. » Le gouvernement qui avait laissé faire, aujourd'hui, se réveille comme un cheveu qui tombe dans la soupe. On ne sait pas qu'est-ce qui a fait que le gouvernement puisse se réveiller. Là, c'est le secret des polichinelles. Et aussi, ce que le gouvernement n'a pas prévu, et donc il a sauvegardé ses propres intérêts, il n'a pas vu l'intérêt de la population. La manière, j'ai décrit la manière ici, l'invité vous a dit qu'à partir du 26-27, il y avait des spots qui passaient à la RTNC. Est-ce que c'est tout le monde qui a la possibilité de suivre la RTNC? Première question. Deuxièmement, lorsque vous prenez maintenant la manière au jour d'aujourd'hui, tout le monde était surpris au Kassai. Avec donc on a bouché les SIM, il n'y avait pas moyen de communiquer, il n'y avait pas moyen. Or, il y a les gens qui avaient déjà dépensé leur argent pour mettre des unités et pour faire des communications. Et personne n'est revenu pour dire que non, il y avait la population qui était victime à un certain moment. Et puis pour terminer, vous allez vous rendre compte que depuis que cette opération a commencé, il y a les gens, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait plus d'une semaine, qui s'étaient déjà rendus dans des shops pour s'enregistrer, mais on ne parvient toujours pas à déboucher leur situation, c'est toujours bloqué. Est-ce que la population ne se fabrique pas des SIM? Ce sont ces gens-là qui vendent des SIM et ils devraient prendre toutes les précautions possibles pour que lorsque chacun achète sa SIM, qu'on puisse l'enregistrer directement au lieu de procéder à ce qu'on a fait de vivre. Franchement, il n'y a qu'au Congo qu'on peut assister à ce genre de choses.
Alors, pour vous, on se rend compte qu'il y a beaucoup de victimes dans cette affaire, mais il faudrait à un certain moment qu'au niveau du ministère, qu'on voit avec les opérateurs des sociétés de télécommunications, comment permettre à la population, dès qu'il y a la personne qui a été bouchée et s'est fait enregistrer, que sa SIM soit débloquée. Il y a aussi beaucoup de personnes qui continuent à se plaindre dans ce sens. Mais vous estimez que le moment est mal choisi, la manière de procéder pour une opération qui est normale, c'est ce qui crée la suspicion. Ernest venait de le dire tout à l'heure. Franklin, vous êtes à Bukavu dans le sud Kivu. Bonjour, Franklin. Franklin, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, alors bonjour, Kéro. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Patrie.
Oui, on vous écoute, Franklin.
Oui, j'ai dit, je fais mienne les compositions de Maître Atelier qui venait à peine d'appeler. Et moi, je voudrais ajouter aussi un aspect. Vous savez, on est dans un Congo, le Congo est tellement immense, mais il n'y a pas une possibilité de faire l'enregistrement, l'identification en ligne. Imaginez-vous quelqu'un qui est dans les fonds, dans les fins fonds des territoires où il n'y a aucun choc, mais on lui demande de venir juste s'identifier. Je pense que c'est aussi la manière de dire que nombreuses cartes SIM seront couchées. Moi, je pense que si les maisons de communication cellulaire peuvent mettre en place une méthode d'identification cellulaire, là où c'est une méthode où on peut se trouver, on peut se son enregistrement, là, ça peut marcher. Parce qu'ici, on voit déjà, on a déposé déjà la fiche, mais pendant qu'on a déposé la fiche, vous êtes déjà bouché sur. Vous n'avez plus droit à la communication. Je pense que c'est une manière aussi de faire qui n'est pas tellement. Qui n'est pas ça. Je pense qu'il faut mettre sur place aussi, au-delà de ce que mes prédécesseurs ont dit, il faut mettre sur place une méthode d'enregistrement en ligne où on peut disposer d'une autre méthode pour que quelqu'un qui est dans le temps, pour que je puisse avoir aussi la possibilité de passer par un chauffeur.
Merci beaucoup, Franklin. Vous estimez que. Mais là aussi, il se pose la question de connaître la vraie identité de la personne qui va s'inscrire en ligne. Quand on n'a pas un document qui a été déposé, c'est notre invité pourra nous répondre à cette question. Nous revenons à vous, Maître Ndokouma. Vous avez suivi les uns et les autres. Cette question de la méfiance et des appréhensions vient de la période choisie. Pourquoi c'est chaque fois lié aux élections? Alors, quelles sont les garanties aujourd'hui que la population peut avoir que malgré les questions sécuritaires qui peuvent se poser, il y a quand même des mécanismes, même quand on voudrait surveiller, quand on voudrait couper la communication, il y a quand même certaines mesures qui sont garanties, certaines communications qui sont assurées pour que les gens ne soient pas tous assimilés à des fauteurs de troubles et que brusquement les numéros soient bouchés. Y a-t-il aujourd'hui des garanties que l'État peut accorder à la population qui est bien sûr, même si en France on les fait aux États-Unis, mais quand même il y a certaines procédures qui sont utilisées pour ça.
Bon, il faut déjà dire que l'État est construit sur la théorie du Léviathan. Ça veut dire que tout le monde donne la responsabilité à l'État dans un contrat social de pouvoir assurer sa protection et le peuple vaque à des activités quotidiennes. Donc, l'élément confiance de l'État est important. Et lorsque il y a des mesures de cybersécurité qui sont prises, il faut toujours le prendre à l'avantage de tout le monde. Je prends les manifestations publiques de janvier 2015 et nous avons travaillé de manière acharnée à contribuer au rétablissement du maintien de l'ordre au niveau des pétaintiques. On s'est rendu compte que les émeutiers étaient en train de se communiquer par des réseaux sociaux. Ça veut dire que vous pouvez faire de la mobilisation des masses par les réseaux sociaux et par le téléphone. On a vu avec les printemps arabes. Alors, si les émeutiers, ce sont des casseurs, ce sont des gens qui descendent dans la rue, ils organisent encore le pillage. Bon, faut-il laisser les moyens des télécommunications être suicidaires pour l'État et même être liberticides pour ceux qui ne manifestent pas dans la rue et qui doivent aller à leur travail? C'est aussi la liberté de mouvement qui est attaquée. Donc, il faut faire confiance à l'État dans les mesures de sécurité qu'ils ont prises parce qu'elles ont un avantage collectif. Maintenant, la question de l'identification en ligne pose deux contraintes. La première contrainte, c'est qu'il n'existe pas de preuves électroniques dans notre pays. Comme vous l'avez dit, comment s'assurer que la personne qui s'inscrit en ligne est bien celle-là? Et demain, lorsque on doit utiliser dans les procédures judiciaires où on doit pouvoir utiliser une fin ou une autre ces données enregistrées, elles ne vont rien valoir. La deuxième chose, c'est la disponibilité pour les opérateurs de pouvoir équiper l'ensemble du pays des équipements d'identification biométrique. Ici, on le voit déjà avec les passeports, que c'est déjà du matériel lourd et tout constant. Mais à ce niveau-là, il faut se dire que les opérateurs également de télécommunications doivent prouver leur bonne foi. Parce que, on ne le cache pas, on est devant la télé, devant les spectateurs ici, ils ont introduit un recours en annulation de ces mesures d'identification. Lorsque l'État congolais veut assurer la sécurité publique, il y a des opérateurs économiques privés qui saisissent la Cour suprême de la Cour constitutionnelle pour dire qu'elles ne sont pas d'accord avec ces mesures. Ça, c'est pas bon. Et donc, on va pouvoir observer la bonne foi de ces opérateurs dans leur diligence à pouvoir faire le débouchage des numéros. Donc, ils doivent pouvoir mettre des ressources humaines qu'il faut pour que, une fois qu'une personne a été ses appels sortants ont été coupés, que très rapidement, donc on va mettre des délais de réaction pour qu'on puisse remettre quelqu'un en ligne. Maintenant, pour les cas où des personnes auraient acheté des unités, comme Maître Adrien le dit, pour pouvoir appeler qu'ils ne savent pas le faire, c'est ce qu'on appelle le fait du prince. Donc lorsqu'il y a des mesures administratives qui sont prises pour le besoin d'ordre public, c'est le fait du prince, donc il n'y a pas d'indemnisation s'il n'y a pas de préjudice exceptionnel.
Et en une seconde, on peut dire aujourd'hui que nous sommes dans une année qui va être politiquement intéressante quand même avec autant des revendications, que ces mesures ne vont pas enfin tomber dans ce que les uns croient qu'elles sont prises uniquement parce qu'il faut museler les uns et les autres.
Je suis venu intervenir en tant qu'expert des télécoms, bien sûr, directeur de cabinet adjoint à la vice-primature PTNC. Je n'ai pas reçu mandat de mon ministre Thomas Louaka, que je salue, pour venir aborder les questions électorales.
Merci beaucoup, Maître Ndoukouma Adjaï-Kodjo. Je rappelle que vous êtes le directeur des cabinets adjoints à la vice-primature en charge des postes téléphones, télécommunications et nouvelles technologies de l'information. De la communication, merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Jérôme Lungembo ici à la coordination, Julie César, standard aussi en réalisation. Mimi qui doit assurer la mise en onde. Et Pierrot et l'ami, je vous la présente sous la supervision de Pelé Équipe et la Mondo. On va retrouver Parole aux auditeurs sur www.radiocapi.net, mais aussi nous vous souhaitons un début de week-end en compagnie des Radio Capi. Bon, au revoir à tous.